marche du monde.
Petite fleur de la Louisiane.
Nous avons des enfants de quatre coins du monde. Ils présentent comme une parterre de fleurs de toutes les couleurs. Et nous avons justement gardé leur religion pour prouver que les religions doivent unir les âmes et non les séparer. Toutes les âmes peuvent vivre ensemble dans la fraternité universelle.
Doudou, petite fille aux yeux si doux.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La voix de Joséphine Baker dans La Marche du Monde, la première star noire de France, aura tout osé, même la maternité universelle. En adoptant 12 enfants des 5 continents, elle aura proposé un nouveau modèle éducatif. Artiste d'avant-garde, Joséphine Baker est avant tout une femme libre de corps et d'esprit. Elle est aussi une femme engagée contre le racisme et contre le nazisme.
Cette voix que vous entendez, vous l'avez reconnue. C'est celle de Joséphine Baker. Elle est près de moi, souriante, très simple, comme vous la connaissiez. Seulement, elle est en uniforme. Uniforme bleu marine, des filles de l'air, un mince galon d'or sur l'épaule. Y a-t-il longtemps que vous portez cet uniforme?
Je suis engagée depuis le début de la guerre.
Avez-vous chanté de nouvelles chansons?
Beaucoup, mais pour les soldats et leur représentation de bienfaisance.
Comment réagissait votre public?
Les chansons font toujours rêver, mais surtout lorsqu'on était question de Paris ou de la France, il était le plus ému.
Oui, vous étiez unis dans une même pensée.
C'est que nous suivions ce grand homme de tête, de taille et de cœur.
Le général de Gaulle.
Oui.
Je sens que vous voulez me parler du général de Gaulle.
Du monde entier, des hommes de toutes les couleurs sont venus vers lui. Il sait ce qu'il veut, il le veut bien pour relever la France à sa suite. On est fiers d'être français.
Vous pensiez souvent à la France?
Oh, beaucoup, tout le temps. On pense surtout à ceux qui étaient restés en France, si malheureux, avec la peur, l'angoisse, les privations, l'horreur de ne pouvoir faire ce qu'on voulait.
Et maintenant que vous êtes en France, êtes-vous contente d'avoir retrouvé Paris?
Mais oui.
Et en 1936, Joséphine devient française en épousant Jean Lyon, qui est juif. Elle habite déjà le château des Milandes. Son 13e fils, adopté tardivement à l'âge de 14 ans, est devenu son biographe avec The Hungry Heart, ce qui signifie un cœur en colère. Jean-Claude Baker signe une enquête saluée par les pages littéraires du New York Times. Jean-Claude revient sur l'enrôlement de sa mère par la résistance française.
Pendant la drôle de guerre, le deuxième bureau n'avait pas de moyens financiers, n'avait personne. Et c'est là qu'ils ont décidé, on va aller chercher des femmes célèbres. Marouani, qui était le plus grand impresario parisien, dit à Jacques Apté, un capitaine qui était dans le deuxième bureau, il faut aller trouver Joséphine Baker. Vous êtes fou, cette fille qui a dansé nue, qui couche avec beaucoup de gens, des bananes et tout. Et il va donc trouver Joséphine et lui demande si elle voulait travailler pour le deuxième bureau et faire de l'espionnage. Et voilà la réponse de Joséphine. C'est la France qui m'a fait ce que je suis. Je lui garderai une reconnaissance éternelle. La France est douce. Il fait bon y vivre pour nous autres gens de couleur, car il n'existe pas de préjugés racistes. Ne suis-je pas devenu l'enfant chéri des Parisiens? Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné le mien. Je suis prête, capitaine, à leur donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez user de moi comme vous l'entendez. La réponse de Joséphine quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle vienne et qu'elle ait de la France.
Et quel a été son rôle?
De jouer Joséphine Baker, rien de plus. Quand Jacques Apté, qui était son boss, je lui dis, mais alors, j'ai pas vu de tableau avec 200 Allemands tués et Joséphine à cheval comme ça avec une mitraillette. Il me dit, quand on passait des sections où on était contrôlé par les Allemands, Joséphine arrivait. Naturellement, il la reconnaissait. Et tout de suite, elle chantait « J'ai deux amours, ba 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 ». Elle signait les autographes, elle jouait la comédie et on nous laissait passer. Je voudrais seulement que tu penses, si un jour, un des officiers allemands avait fait son travail et cherché sur Joséphine Baker, il aurait découvert que dans les plis de sa robe et de sa veste, il y avait des documents secrets, et que dans les partitions musicales, nous avions écrit à l'encre invisible des choses. Et me dit-il, pense à ce qui aurait pu arriver à Joséphine, pense ce qui serait arrivé à moi, qui était son faux manager. On aurait été fusillés tous les deux. Elle a pris des risques, mais ça l'amusait, tout en étant Joséphine Baker. Quand ils l'ont fait vivre, donc, elle était la plus célèbre qu'il y avait en Europe, et peut-être une des plus célèbres au monde, avec beaucoup d'argent. Elle était l'amie de l'ambassadeur d'Italie, car Pepito, son homme de l'époque, était italien, parmi tant d'autres. Hein. Donc, elle se fait inviter à l'ambassade d'Italie, et elle écoute, parce que devant Joséphine, il parle normalement. Et elle répète tout. Elle faisait même des choses insensées. Elle écrivait sur son bras les choses qu'elle pensait importantes. Elle venait, elle donnait ça à Jacques Alliem, le petit effort. Ils vont dire, oh, mais personne ne pensera que je suis une espionne. Et ça l'amusait, c'est tout, voilà.
Après 3 années passées en Afrique du Nord, où elle a été gravement malade, Joséphine rentre à Paris en octobre 1944, après la libération. Pendant la guerre, Joséphine Baker a divorcé de Jean Lyon pour épouser Joe Bouillon, un merveilleux chef d'orchestre. Joe et Joe, comme on les surnomme, font ensemble les tournées de chant organisées par la Croix-Rouge, destinées aux soldats. Puis, le temps de la reconstruction arrive, celle de la France, mais aussi celle de Joséphine. Après de multiples problèmes de santé, elle transforme les Landes, son château en Dordogne, en un mélange d'attractions touristiques et de centres d'éducation. Joe et Joe installent 60 familles pour créer un village avec ferme et hôtel, eau et électricité. Et pour financer son projet arc-en-ciel, Joséphine retrouve alors les Folies Bergères, une nouvelle revue, féerie et folie, et puis bientôt une grande tournée aux USA en 1951.
Elle avait beaucoup de succès en Amérique du Sud, beaucoup de succès à Cuba, qui est à 100 km des États-Unis. Et c'est pour ça qu'un producteur juif, car les juifs ont fait beaucoup pour aider les noirs aux États-Unis, et ça, il ne faut pas l'oublier, il avait un club à Miami, et il a fait venir Joséphine à Miami en 1951, et ça a été le triomphe total. Et d'un seul coup, l'Amérique entière s'est réveillée pour Joséphine Baker. Elle était là, l'ambassadrice de la haute couture française, avec des robes de Balenciaga, de Christian Dior, merveilleuse, splendide. Grand succès, elle gagnait 10 000 dollars par soirée, jusqu'au jour où elle est arrivée au Stork Club, où elle a créé un scandale de discrimination. Et ça a arrêté son triomphe américain, qui avait duré pendant un an, du jour au lendemain.
À aucun moment, Joséphine ne baisse la garde. Elle ne renie pas ses convictions et contredit les règlements ségrégationnistes des établissements américains. Bien que l'affaire du Stork Club ne soit pas très claire, Joséphine va cette fois être accusée de complot communiste. Elle finira par déclarer que son exclusion des États-Unis serait un honneur pour elle. Cette ultime provocation la prive définitivement de sa carrière américaine. Et pourtant, jamais elle ne cessera de lutter contre la ségrégation.
Nous sommes maintenant en 1963. Il y a la marche à Washington et il se trouve aux États-Unis encore des gens qui connaissaient Joséphine avant qu'elle aille en France. Il ne faut pas oublier, elle a vécu 19 ans ici, elle était une grande petite star en tant que danseuse. Et ses amis ont fait une quête pour lui permettre de venir de France à New York en avion, car elle n'avait pas d'argent à l'époque. Elle est allée à la marche à Washington et c'est l'une des seules femmes qui a parlé spontanément. Et ça, c'était Joséphine. Elle regarde cette foule. Elle dit, j'ai attendu 30 ans pour ce jour. On ne peut pas mettre la liberté aux lèvres des gens et ne pas penser qu'ils ne vont pas le boire. Elle était fabuleuse, merveilleuse. Et d'ailleurs, dans une lettre de Martin Luther King que j'ai en main, du 5 novembre 1967, il lui dit, « Dear Miss Baker, nous avons tous été inspirés par votre présence à la marche Washington. Je suis profondément touché que vous soyez venu de si loin pour participer à ce moment historique. »
Écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Joséphine Baker, une femme libre de corps et d'esprit, une femme qui, dans cette douce France, dans ce château de Comte de Feu en Dordogne, cultive avec Joe Bouillon son jardin d'enfants. De toutes les religions, de tous les continents, Joséphine Baker invente la famille arc-en-ciel. La première adoption a eu lieu en 54, lors d'une tournée au Japon.
Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village,
où Milande dans un décor de conte de fées,
12 tout petits enfants,
un feu de bois dans la cheminée éclairant le monde, tout au moins une petite partie du monde, puisqu'il s'agit du petit monde des Milandes, de la tribu arc-en-ciel. Eh bien, j'ai auprès de moi l'aîné, le plus grand de ces garçons, qui s'appelle
Akio.
Quel âge as-tu ?
8 ans et demi.
Tu es de quelle nationalité ?
Coréenne.
Dis, mon petit Jeannot, tu es né où ?
Au Japon.
Et quel âge tu as ?
7 ans.
7 ans. Comment tu t'appelles, toi ?
Louis.
Tu es ?
Colombien.
Ramasse la trompette. Ne pleure pas. Comment tu t'appelles ?
Jean-Claude.
Jean-Claude, tu es ?
Français.
Tu es parisien ?
Oui.
Une heureuse maman, Joséphine Baker.
Eh bien, c'est justement ça qui me fait tant plaisir aussi. C'est de voir tous ces petits-enfants et d'être leur petite maman. Hein, mon chéri. On l'aime bien, sa maman.
Eh bien, Joséphine, pouvez-vous me dire, je crois que la base de votre éducation est d'abord la vérité et la sincérité, puisque aucun de ces enfants n'ignore ses origines.
Dès qu'ils ont pu comprendre, ils ont commencé à savoir de quel pays ils viennent, etc., leur religion, même quelle couleur qu'ils ont. Pour que ça ne soit pas un obstacle pour eux dans la vie, mais au contraire, une chose, tout ce qu'il y a de normal.
Dans mon village.
À l'époque, Joséphine et Joe Bouillon avaient les Milandes, qui s'appelait d'ailleurs le château des Mirandes, et du fait que Joséphine ne pouvait pas prononcer le R, elle a pris le nom avant la Révolution, et c'est redevenu les Milandes. Et un beau jour, avec Joe Bouillon, elle a décidé d'adopter 5 garçons représentant les 5 continents, car elle voulait devenir la maman universelle. C'est assez amusant du fait qu'elle ne pouvait pas concevoir d'enfants. J'ai parlé avec son gynécologue, le professeur Couvler. Elle avait une malformation et c'est pour ça qu'elle a décidé, à l'âge de 50 ans, de devenir la maman universelle. Elle a changé le nom de tous mes frères et sœurs. Paul est devenu André, André est devenu Jean-Claude. Elle voulait que nous soyons frères et sœurs et faire un monde meilleur. C'était quand même un rêve utopique.
Et comme moi, je sais qu'un jour, ils chanteront les deux amours, ce beau village, et puis celui de leur pays. L'un d'eux est couleur de la nuit, les deux autres sont de celle du jour. Le quatrième est couleur du sang, le dernier, couleur du soleil. Mais tous les 5 sont mes enfants. Et mon cœur de maman les aime tous autant.
Mon nom, c'est Jari. Mon nom officiel, en plus, même en finlandais. Je suis le seul qui n'a pas été changé de nom, comme Jean-Claude a dit. J'ai changé simplement le nom de famille. Quand les 6 plus grands, on avait 5 ans, papa il nous a expliqué pourquoi on était frères et sœurs. Les différentes couleurs, les différentes races. Ça a été très court, un matin avant d'aller à l'école. Maman n'a jamais rien dit, vraiment précisément, mais peu à peu, on a commencé à comprendre. Donc c'est pour ça que papa a décidé de nous dire directement la vérité. Nous ont plus ou moins raconté comment on avait été adopté, d'où on venait et pourquoi. La vérité, je ne sais pas si c'était la bonne. Je pense que papa est qui était quand même assez intelligent, a dû dire, ils vont se poser des questions, mieux vaut leur dire maintenant tout de suite. Mais on a toujours grandi en tant que frères et sœurs. Ma mère ne disait jamais, va chercher Akio, va chercher Jean-Claude, va chercher ton frère, va chercher ta sœur, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour mettre ça dans la tête.
C'était quoi la philosophie de cette famille ?
Au début, c'était parce que nos parents ne pouvaient pas nous élever correctement, ou certains ont été abandonnés. Et Joséphine est passée par là et nous a pris. Donc il a essayé de raconter une histoire plus ou moins féerique. Maman nous a dit que Elle a fondé cette famille pour prouver au monde entier que l'union des races et des religions était possible. C'est parce qu'on parle toujours de guerre ici, de guerre là-bas. Plus derrière tout ça, la ségrégation, on dit, ségrégation oui. des Noirs vis-à-vis des Blancs. Donc c'était la base de pourquoi notre famille a été formée.
Tous ces enfants portaient le même nom. Celle qu'Akio, Marianne et leur frère appellent maman, c'est Joséphine Baker. Depuis 30 ans, elle est reine du music hall. Depuis 8 ans, elle est la mère de ces 11 orphelins qu'elle a adoptés.
Il fallait refaire l'Emiland, qui était devenu un centre d'attraction. C'était Disneyland. Et au lieu de voir Mickey Mouse et Donald Duck, vous saviez, oh, le petit qui est de Finlande, oh, et le petit noir qui est d'Afrique. Et les gens venaient et payaient pour voir les enfants. Il ne faut pas rêver. C'était d'ailleurs intelligemment fait. Joséphine avait fait le village avec les huttes africaines pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y avait un hôtel pour les gens de revenus moyens. Et il y avait un hôtel à Grande Chartreuse pour les gens très chics et qui dépenseraient beaucoup d'argent. Il y avait une piscine en forme de J. Et Joséphine était là quand elle était là, parce que quand elle était en tournée, ça ne marchait pas. Mais l'ouverture, le premier jour, 2000 personnes sont venues. C'était incroyable, c'était incroyable. Très mal géré, très très mal géré. Les gens volaient, tout. Jo Bouillon n'est pas content du tout. Et il est parti, mais Jo Bouillon a refusé de divorcer car il a dit, les enfants portent mon nom. Elle était maintenant officiellement Joséphine Bouillon, n'ayant jamais divorcé William Wells, n'ayant jamais divorcé William Baker, mais ayant divorcé Jean Lyon. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand elle va mourir en France, elle va mourir fille de Mr. Baker, son deuxième mari. C'est sur l'acte de décès. Donc c'est merveilleux la façon dont Joséphine peut se réinventer continuellement.
À la fin des années 50, le domaine des Emiland accueille des milliers de visiteurs par an. Mais la gestion de l'extravagante et généreuse Joséphine décourage Jo Bouillon, son mari, qui se sépare de Joséphine. Jarry, l'un des 12 enfants adoptifs, évoque son quotidien dans le château de contes de fées de sa maman.
On était tous ensemble. Vraiment, on n'a jamais eu de copains, copines. Peut-être la fille d'en face. Maman nous protégeait beaucoup trop. Il fallait rester dans le château, pas à la vue des gens. Il n'y avait qu'avec elle qu'on pouvait rester devant les grilles et puis voir les gens dehors, comme des Saint-Joseph, je dirais. Alors on était toujours derrière le château, on jouait là, que personne ne pouvait nous voir. Mais les bons souvenirs de gamin. Jouer ensemble. Courir ensemble, on avait un précepteur qui nous amenait dans les bois, dans les montagnes, sans arrêt. On a vécu une enfance d'enfant, vraiment exceptionnelle, parce qu'on était les fils de Joséphine Baker.
Est-ce que vous en aviez conscience d'avoir une maman qui était une star internationale ?
Après, quand on a grandi, quand on était petit, c'était maman et c'était tout. On savait qu'elle allait voyager, qu'elle chantait. Quand on a grandi, elle a commencé à parler un tout petit peu plus à sa manière, très très court. La vie aux États-Unis, l'arrivée en France, oui, les bananes, oui. Puis après, c'était la guerre directement, puis après, c'était nous. Il n'y a eu rien vraiment au milieu de tout ça.
Une fois de plus, Joséphine Baker est en détresse. Il lui manque tant d'argent qu'elle ne peut plus entretenir son domaine des Emiland en Dordogne. Les Emiland vont être vendus. Ce n'est pas un appel qu'a recueilli notre correspondant Philippe Louit. Joséphine Baker s'en défend. Ce n'est pas un appel et cependant...
Sachez au moins... Pourquoi je me suis trouvée dans une telle situation financière? De tous les millions que j'ai gagnés, et ils sont nombreux, je n'ai dépensé pour moi que la plus petite partie. Je n'ai jamais demandé de secours. Je pensais que je réussirais par mon travail, mais je vois que je ne peux le faire. Cependant, il faut que je m'accomplisse mon devoir. Je dois donner une bonne éducation et une bonne instruction à mes enfants. Pour les mettre sur le chemin de la vie. Je ne voudrais pas qu'ils perdent leur foyer.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
Joséphine ne réussira jamais à rembourser ses dettes. Isolée, elle sera définitivement expulsée de son cher château des Emiland en 1969. Et c'est la princesse Grâce de Monaco qui permettra à Joséphine et à sa tribu arc-en-ciel de se reloger à Roquebrune, dans le sud de la France.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas...
Jean-Claude Baker évoque sa première rencontre avec celle qui allait devenir sa maman en 1958.
J'ai rencontré Joséphine quand j'étais groom à l'hôtel Scribe. J'avais 14 ans. Et je fais un service pour elle. Et je reviens, elle me dit « Comment va ta maman ?» Et je pleure parce que j'ai été abandonné par mon père et j'habitais tout seul à Paris à 14 ans à l'hôtel Pax grâce au gérant de l'hôtel qui m'avait déclaré sous un faux nom comme faisant partie de leur famille. Et quand je lui dis ça, elle me dit « Te fais pas soucis mon petit, tu n'as pas de papa, à partir d'aujourd'hui tu auras deux mamans. » C'est merveilleux, mais c'est de trop, vous voyez ce que je veux dire ? C'était suffocant. Je l'ai vu dans Paris Mes Amours, qui est un show époustouflant, c'est le premier show que j'ai jamais vu. Donc Joséphine, j'avais toujours une relation spirituelle avec elle, ça ne servait à rien de lui écrire, les lettres n'arrivaient pas. Et je l'ai retrouvée quand j'étais à West Berlin, où j'avais une discothèque, j'étais chanteur, et elle faisait un show un soir du Nouvel An, sous un chapiteau. C'est quand elle était en train de perdre des millions, et c'était... pathétique. Et c'est là où je suis revenu et que je suis devenu le 13e enfant. Et c'est là que j'ai vu qu'il fallait l'aider. C'était vraiment sa traversée du désert. Et j'étais là avec beaucoup de dignité pour essayer de l'aider. Et au fond de moi, je savais que si on lui redonnait une production de première classe, elle ne vous décevrait pas et qu'elle pourrait être magnifique, merveilleuse. Nous étions complices. Complices. Et en plus, ayant été abonné par mon père, j'ai tout de suite adopté ce rôle de fratelle universelle et d'ambassadeur d'un monde meilleur.
We have been called the children of universal brotherhood. As you can see now, we are no longer children. Le temps passe, time goes. My brothers and sisters want me to introduce to you the lady we all, and you too, I'm sure, love so much.
Merci Jean-Claude, fils tardif de Joséphine. Merci de nous avoir confié votre vision de Joséphine Baker, votre mère, sans complaisance aucune. Vous avez su nous faire partager toute la folle complexité d'une femme au cœur immense, mais aussi d'une femme au cœur en colère. C'est le titre que vous avez donné à votre biographie. Ce cœur en colère, peut-être un jour, fera-t-il son entrée au Panthéon français.
Je vais vous chanter une chanson qui a été créée par la chanteuse, la plus grande chanteuse de notre époque, Edith Piaf, dans La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Et on retrouve une dernière fois Jarry Baker. À vous, Jarry.
Moi, je me rappelle maman fin des années 50, elle était merveilleuse, une très belle voix et tout ça. Puis après, on voit qu'elle s'est fatiguée beaucoup plus, qu'elle allait vraiment travailler parce qu'il fallait. Mais le dernier spectacle n'était pas du tout mauvais. Moi, j'ai vu Monaco, j'ai pas vu Bobino, mais elle était merveilleuse. Tout le monde était en admiration de voir une femme à son âge courir dans les allées du théâtre pour arriver sur la scène. Elle séparait complètement ce qui était l'artiste de la vie de famille. À la maison, c'était la maison. Dehors, c'était tout à fait une autre femme dans sa lutte pour ses chansons, pour ses spectacles.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne d'elle ?
L'union des races et des religions. Je vois pas pourquoi les Français se battent à cause des Arabes. Dans notre pays ici, c'est les Noirs vis-à-vis des Blancs. Ça, c'était la démonstration qu'elle a voulu faire. Et c'est ce qu'il faut qu'il reste pour tous, les jeunes, les vieux. Oubliez Joséphine comme chanteuse, comme artiste. Regardez-la du côté femme. La lutte qu'elle a fait, c'est ce qu'il faut qu'il reste, l'union des races. Pas de guerre, pas de problème de religion, rien. Vivre en paix. Essayez.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.
Le rêve de Joséphine Baker, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec notre stagiaire Philippine Veil. N'oubliez pas de vous exprimer sur marche.monde@rfi.fr et sur la page Facebook de La Marche du Monde, retrouvez des documents exceptionnels dont l'acte de naissance de Joséphine Baker ainsi que les références du livre de Jean-Claude Baker traduit en français sous le titre Un château sur la lune, le rêve brisé de Joséphine Baker aux éditions Hors Collection. Écrivez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
Me revoilà Paris. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris. Dis-moi comment me trouves-tu. J'ai peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappelle-toi Paris. Quand j'ai chanté, j'ai deux amours. J'avais fait le pari que cela durera.